Judith Gauthier, Isoline. Chapitre 1. Un soir gris descend sur la mer. Les nuages lourds, que pousse une brise très âpre, s'écroulent vers l'horizon, faisant craindre une nouvelle averse. La pluie qui vient de tomber rend glissante la cale de Saint-Servan, dont la pente s'enfonce sous l'eau houleuse. Elle assombrit les pierres grises de la haute tour Solidor, qui semble avoir pris racine dans les rochers qui lui servent d'assises et ont fourni les matériaux de ses murailles. De chaque côté de la cale, des bateaux de pêche, la voile à demi ployée, dansent avec une sorte d'affolement. Des matelots, des femmes chargées de paniers, descendent à la pente mouillée et interpellent d'une voix dolente les barques qui accostent le quai. Un teinturier, les bras bleus jusqu'au-dessus du coude, trempe diverses loques dans l'eau qui roule sur la chaussée de pierre et, pour un instant, teinte les premières lames de nuances invraisemblables. Là, tout près, ballottée d'une façon inquiétante, une vieille embarcation aux planches vermoulues, dont toute trace de peinture a disparu, emplie déjà de passagers, semble attendre le moment du départ. Ceux qui s'entassent dans cette barque sont des ouvriers en habits de travail, souillés de plâtre et de boue, des paysannes proprettes, le petit fichu de couleur croisé sur la poitrine, la jolie coiffe bretonne, dont chaque bourg change la forme, palpitant sur leurs cheveux. À l'arrière, deux sœurs trinitaires, le visage encadré d'un bonnet plissé sous le voile noir, font bruire les croix et les chapelets perdus dans les plis de leur robe de bure. La barque est plus que pleine, et pourtant, de nouveaux arrivants la hèlent et sautent sur l'avant encombrés, sans que les passagers paraissent surpris de cette surcharge. Ils échangent seulement quelques phrases insignifiantes. « Tu ne t'en viens donc pas aujourd'hui ?»« Si bien, il est encore temps. » »« La marée n'attend pas. » »« Tout de même, le vent est bon, on marchera. » Et on se serre encore, les uns s'asseyent sur le rebord du bateau, d'autres se tiennent debout. En route, crie enfin le patron, que rien dans son costume ne distingue de ses compagnons. La voile est hissée par-dessus les têtes qui se baissent, une grossière voile carrée qui se déploie lentement. Mais au moment où une pesée sur la gaffe va éloigner du quai la lourde barque, des pas pressés résonnent sur les pavés et deux personnes dévalent de la ville. L'une est un prêtre qui fait des signaux véhéments à l'embarcation prête à s'éloigner, l'autre un jeune officier de marine suivi d'un matelot portant une malle sur l'épaule et à la main une valise. Ceux-ci se dirigent vers un joli sloop qui appareille au bord du quai tandis que la barque se rapproche répondant aux appels du prêtre. « Il n'était que temps, monsieur l'abbé. Vous ne serez guère bien. Allons, serrez-vous. » « Comment voulez-vous que j'embarque ? » s'écria le prêtre d'une voix brusque. « Vous êtes déjà chargés à sombrer. »« Oh, il n'y a pas de soin, » dit le patron. « Si je mets le pied là-dessus, vous coulez bas sans aucun doute. Je suis trop bon chrétien pour vouloir causer la mort de n'importe qui. »« Comme c'est amusant, » continua-t-il avec mauvaise humeur. Et il jeta un regard vers le sloop dans lequel l'officier de marine venait de sauter. « Allez-vous à Dinan, capitaine ?» lui crie-t-il alors en s'avançant au bord du quai, tandis que le vent tracasse les plis noirs de son manteau. « Oui, monsieur, je vais à Dinan, » répond l'officier en saluant légèrement. « Alors donnez-moi une petite place dans votre grand bateau où vous êtes tout seul. »« Soit, monsieur, avec plaisir, » dit le jeune homme en dissimulant à peine son peu d'empressement. Tout en manœuvrant, le plus âgé des matelots hoche la tête et grommelle tout bas contre le sans-gêne de l'homme d'église. « Ils sont fous !» dit le prêtre déjà installé dans le sloop en indiquant la barque surchargée qui prend le large. Mais le sloop l'a bientôt rejointe et dépassée. Toutes ses voiles gonflées, il s'incline, prend le vent et file comme une flèche. Ce n'est pas sans embarquer quelques paquets de mer ni sans rouler violemment. L'abbé se retient de la main à la banquette. « Ne prendrons-nous pas quelques riz ? » dit-il. « Avez-vous peur ? » ricane le matelot. Et avec un peu de malice, lorsqu'on quitte l'abri des roches et que la brise redouble de force, au lieu de filer l'écoute et de venir au vent, il garde la voile bordée et laisse le bateau s'incliner jusqu'à fleur d'eau. « Je ne suis pas marin, » s'écrie le prêtre en se rejetant vivement vers l'autre bord sans que ce déplacement de poids produise aucun effet. « Nous arriverons plus vite ainsi, » dit l'officier qui laisse serrer ses regards sur la baie. L'admirable panorama se déroule, en effet, un peu noyé dans les nuées grises. À droite, Saint-Malo, enfermé dans ses murailles que domine la pointe aiguë de son clocher, semble une de ces villes que l'on voit dans les enluminures des missels portées sur la main par un roi. Vers la haute mer, les rochers, les îles que borde la blancheur de l'écume mouvante font des taches brunes. À gauche, Dinard, coquette avec ses villas cachées dans la verdure, s'accroche audacieusement au flanc rocheux des collines. Mais le bateau, qui bondit, se cabre et retombe dans un éclaboussement d'eau en volée, vire de bord et prend sa route définitive vers la Rance, dont la marée montante fait rebrousser le cours. Le tableau change alors. On croit voir maintenant un lac entouré de coteaux verdoyants. L'horizon est fermé, mais à mesure que l'on avance, les collines semblent s'écarter comme les portants de théâtre et ouvrent le passage sur d'autres lacs qui, momentanément, paraissent aussi sans issue. Les flots s'apaisent, l'on entre en rivière et les personnages, qu'emporte le fin bateau qui file maintenant sans secousse, commencent à s'examiner les uns et les autres. Le prêtre regarde obliquement l'officier et baisse les yeux lorsque celui-ci lève les siens. Sans le connaître personnellement, l'abbé sait bien quel est son hôte. Le sloop et les matelots qui le conduisent lui ont fait deviner, au premier coup d'œil, que ce jeune homme ne peut être que Gilbert Hamon, lieutenant à bord d'une frégate de l'État qu'un congé de convalescence renvoie pour 3 mois dans sa famille. Une mauvaise fièvre, attrapée aux Antilles, a fait croire qu'on ne le reverrait plus. L'abbé Jouan a entendu parler de cela par Madame Aubray, la propre sœur de Gilbert Hamon. Elle lui a même fait dire une messe pour le rétablissement de son frère. Mais c'est la première fois que le jeune marin revient à Dinan depuis que l'abbé Jouan est premier vicaire à l'église Saint-Sauveur, c'est-à-dire depuis 3 ans. Il le connaît donc sans l'avoir vu encore. Madame Aubray étant sa pénitente, il sait même pas mal de choses sur la famille, la fortune et même le caractère de l'officier. Il a parfaitement connaissance, par exemple, de son indifférence en matière religieuse. C'est pourquoi il ne fait semblant de rien, n'a pas l'air de savoir qui il est. Le seul fait de garder à son service ce matelot Eugène Damon, le plus mauvais chrétien de la côte, suffirait d'ailleurs à rendre suspect le maître du bateau. L'abbé Jouan se demande même s'il n'a pas agi un peu légèrement en sollicitant l'hospitalité à ce bord ennemi. Le physique de Gilbert Hamon, qu'il étudie en dessous, ne lui revient guère. Le jeune homme est très pâle encore de sa maladie récente, comme alangui et vaguement triste. Sa bouche, bien dessinée, est d'un rouge très vif qu'exalte encore la brûlure de la fièvre. Des favoris courts, des sourcils bruns très nettement tracés sous un front pur, les tons ivoirins des tempes, la correction élégante de l'uniforme donnent à l'ensemble de cette physionomie quelque chose de britannique. Une vraie figure de papier mâché, conclut l'abbé à part lui. Ce qui lui déplaît le plus, c'est ce regard altier qui jaillit soudain et communique par moments une singulière puissance à un visage presque féminin. Sa flamme directe ne parvient pas à rencontrer pourtant les coups d'œil louvoyants du prêtre. Mais le jeune officier paraît peu curieux du visage de son hôte que charbonne une barbe de 3 jours, de ses yeux gris, inquiets et comme honteux, de cette physionomie qui se fronce et grimace à chaque moment. Cet ensemble ne lui semble pas très digne d'intérêt et il persiste à regarder rêveusement le paysage. Le faible écho, aussitôt éteint, qu'éveille les phrases jetées par l'abbé, le fait se réfugier dans une lecture attentive de son bréviaire. Déjà, on a franchi la grande baie qui s'arrondit devant Saint-Suliac, curieux village couleur de cendre, qui groupe tout au bord de l'eau ses chaumières moussues autour de la tour gothique de sa vieille église. Le port Saint-Jean, le port Saint-Hubert filent à droite et à gauche. Un creux de vallée découvre un instant le gros bourg de Plouet et de blancs hameaux apparaissent dans la verdure, les uns près, les autres plus loin sur la hauteur. Après l'écluse du Châtelier, le vent, tout à l'heure si vif, mollit brusquement. La menace de pluie s'est dissipée, Le ciel est maintenant d'un gris doux et l'eau calme, argentée, reflète comme un miroir. Damon, en mâchonnant des jurons, largue toute la toile. L'autre matelot, Pirouette, empoigne la godille pour aider au voile. « Voilà du calme, » dit l'abbé. Le paysage change à chaque moment. La rivière s'est beaucoup resserrée. Elle décrit de grandes ondes à travers les bois de hauts sapins dont les perspectives noires s'enfoncent. Gilbert poursuit sa rêverie qui s'attriste de plus en plus. Tout en regardant le long reflet des arbres dans l'eau, il interroge son cœur qui lui répond « Néant ». Et cette sensation de vide lui cause une douleur presque physique. Il cherche en lui la vibration d'un sentiment quelconque à l'approche de son foyer et n'éprouve absolument rien. C'est que les affections puissantes ne sont plus. Sa mère, pour qui chacun de ses départs était une agonie, a fini de souffrir. L'océan a dévoré son père. Il n'a plus d'autre famille que celle de cette sœur qui le voit s'éloigner sans grande tristesse et revenir sans grande joie. Il n'y a donc pas pour lui, au bout de ces mers sans cesse traversées, un port qu'il désire revoir. Le sol natal où il vit si peu lui est indifférent et les terres lointaines, dont il ne connaît que les rives, ne l'ont séduit que fugitivement. Que lui est-il resté même de ces amours rapides, noués et dénoués, condamnés en naissant ? Rien qu'un souvenir léger, comme celui d'un parfum plus ou moins doux. Il n'a pas pénétré davantage dans l'intimité de l'âme de ses amantes exotiques qu'il ne s'est enfoncé dans les profondeurs des forêts vierges dont la lisière fleurie lui souriait. À peine quelques pas à travers les lianes emmêlées, à peine quelques fissures aux voiles tissées par le langage incompris, et la frégate, planant vers la haute mer, rouvrait déjà ses larges ailes et reprenait sa proie. La mer et sa lourde solitude, voilà tout ce qu'il retrouvait dans son cœur. La terre lui était comme étrangère. Jamais il n'avait la sensation d'être ni loin ni près, rien ne l'aimait et il n'aimait rien. Aussi, la mort qui venait de le frôler ne lui avait-elle pas arraché un soupir de regret. « Tous les marins sont ainsi, » se disait-il. Mais sa résignation n'était qu'extérieure et bien souvent, sur la mer calme, sans que son froid visage en laissât rien voir, des tempêtes se déchaînaient en lui. En ce moment, où il cherchait à éprouver un peu de cette impatience joyeuse du retour, il discernait mieux que jamais le dénuement de son âme. Le spleen, ce mot lui venait aux lèvres et il se sentait enveloppé, comme le ciel, dans des nuées grises. Dinan apparaissait maintenant, ses grosses tours encore majestueuses, ses remparts puissants, les clochers de ses vieilles églises se découpaient au sommet de la haute colline. L'abbé ferma son livre et se leva pour dégourdir ses jambes. « Nous touchons au port, » dit-il. Alors l'officier, un peu honteux de son long silence, s'efforça de dire quelque chose. Il se leva aussi pour mieux voir Dinan. « Comme cette ville est sombre, » dit-il, « ces vieux murs, cette verdure foncée, ces maisons noires, cette rivière couleur d'encre, tout est deuil. »« C'est la faute du temps et de l'heure, » dit l'abbé, « revoyez-la par un ciel bleu. »« Ce n'est pas une ville comme Paris, » observa Pirouette. « Dame, non, » dit Damon, en sautant d'un banc à l'autre pour carguer la voile. « Ah, voici Madame Aubray et ses enfants, » dit l'abbé. « Ma sœur. » On eut vite accosté le quai et Gilbert se trouva dans les bras d'une jeune femme, vêtue d'une robe grise, d'un paletot noir et d'un chapeau un peu défraîchi. « Te voilà donc ? Mon Dieu, comme tu es blanc ! On voit bien que tu as pâti !»« La fièvre jaune, » dit l'officier. Deux petites filles, l'une de 6, l'autre de 4 ans, regardaient bouche béante. « Vous ne dites rien à votre oncle ? Je leur fais peur. » Le prêtre s'éloignait en faisant de grands saluts. « Ah, bonsoir, monsieur l'abbé !» lui cria Madame Aubray avec un sourire aimable. « Allons, viens-t'en » dit-elle à son frère. « Damon portera tes malles. » Ils s'engagèrent dans la vieille rue du Gersoil, malpropre et pittoresque, rapide comme le lit d'un torrent, pour gagner la rue de l'Horloge où demeurait la famille Aubray.